que vous avez choisi sur le carton d'invitation une parole de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Il nous permettra pendant ces quelques jours de partager cette grande nouvelle. Ce que l'apôtre affirme ici reste une vérité éprouvée. Et pour ma part, je bénis Dieu, parce que c'est là une vérité que j'ai pu expérimenter également dans ma vie. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de vous donner en détail mon témoignage de conversion, mais je puis vous assurer que oui, l'Évangile, c'est véritablement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car en débarquant ici en France, dans les années 80, je m'attendais à tout, sauf à me trouver un jour devant des personnes pour parler de Jésus-Christ, parce que j'étais né dans une famille musulmane. Et je pratiquais la religion avec le plus grand sérieux possible, mais j'étais loin de connaître la vérité qui libère, qui sauve, et qui, ce soir, est là également puissance de Dieu pour le bien de chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul a pu écrire dans le premier chapitre de l'épître aux Romains et dans le verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, lui du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. On peut être surpris d'entendre cette parole, je n'ai point honte de l'Évangile. Mais quand on connaît le contexte de l'époque et quand on sait de qui vient cette parole, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est que véritablement, nous devons être sûrs et certains qu'il ne dit pas n'importe quoi. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une parole prononcée par un homme qui, pendant plusieurs années de sa vie, avait combattu l'Évangile. S'était opposé à l'Évangile et pourchassait ceux qui croyaient en l'Évangile de Jésus-Christ. Mais voilà qu'aujourd'hui, non seulement il a cru dans cet Évangile, mais désormais sa vie est consacrée à annoncer ce message glorieux de l'Évangile. Alléluia. Donc on peut comprendre. Celui qui était opposé, l'opposant le plus farouche, devient maintenant le défenseur le plus farouche. Alors quand il dit qu'il n'est point honte, c'est qu'il a trouvé une bonne raison de ne plus avoir honte de l'Évangile. Et ce soir, amis, quand vous allez faire la même expérience que lui, que plusieurs d'entre nous, eh bien vous aussi, vous n'aurez plus honte de l'Évangile. Que Dieu soit béni. Alléluia. Eh bien quand il dit je n'ai point honte de parce que ce message s'adresse à des croyants qui habitent à l'époque dans, eh bien, la capitale du monde, Rome, qu'on appelle encore la ville éternelle, était, eh bien, le condensé ou le concentré, eh bien, de toutes les connaissances de l'époque. Car étant la capitale de l'empire qui dominait le monde, c'est là que se retrouvaient, eh bien, les érudits du monde. Donc, Rome était la capitale, eh bien, des intellectuels, des philosophes, des raisonneurs et de tous ceux qui peuvent se prétendre être au-dessus, eh bien, de la moyenne. Avec son cortège de croyances en toutes sortes de divinités, adresser le message de l'Évangile, qui semble pourtant être un message si simple que certains ont cru qu'il était simpliste, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, s'il dit, eh bien, c'est le vif désir de vous annoncer à vous aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, c'est parce qu'il n'a point honte de dire à quiconque veut l'entendre, grec comme juif, ignorant comme savant, grand comme petit, il veut que tous sachent que ce message de l'évangile, c'est un message dont il n'a point honte. Partout et dans tous les milieux, il est fier de dire que l'évangile est un message qui est dit d'être annoncé à quiconque. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, pour vous qui êtes venus ce soir pour entendre l'évangile, vous avez donc fait le bon choix. Surtout si vous croyez dans ce message, vous verrez son effet dans vos vies. Nous y reviendrons dans quelques instants. Je n'ai point honte donc de l'évangile. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Ce soir, le but de l'annonce de l'Évangile, c'est donc de vous amener à croire dans l'Évangile. À croire pour que vous puissiez, eh bien, être rendu juste par la foi et vous permettre de vivre par la foi jusque dans l'éternité glorieuse. Car celui qui croit en l'Évangile ne mourra plus jamais. Et quand il serait mort, il vivra quand même parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons donc vous aider à découvrir qui est Jésus, afin de croire en lui à votre tour, pour expérimenter la puissance de Dieu et le bonheur attaché à la connaissance du Dieu véritable. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, pour vous y aider, nous, pendant pour quelques jours, nous reviendrons sur ce passage pour introduire. Mais maintenant, j'aimerais que nous puissions faire une autre lecture pour que ce soir, quelqu'un puisse enfin comprendre pourquoi nous disons, pourquoi nous croyons et pourquoi nous affirmons haut et fort que l'Évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Alors, l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, l'Évangile selon Jean au chapitre 5, pendant que vous cherchez la référence, bon, je le ferai aussi dimanche, sauf en cas d'oubli. J'aimerais aussi vous apporter les bonnes salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu de Sergi Pontoise, qui ont prié également pour vous, pour que Dieu nous bénisse ensemble, et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, ne manquera pas de le faire. Il vous salue tous dans le beau nom de Jésus et nous voulons nous attendre à sa grande bénédiction pour nos vies. L'Évangile selon Jean au chapitre 5 et nous lisons dans le verset 2e et les suivants. Il est écrit « À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Peux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, dès le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et disons, « Amen. » Tendre et bon Père Céleste, nous prions que dans ta grâce, tu disposes les cœurs de tous ceux qui sont présents dans ce lieu à entendre le message de l'Évangile. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que ce soit l'expérience de celui ou de celle qui, au milieu de nous, n'a pas encore goûté à ta puissance, à ton amour, à ta bonté, à ta grâce. Père, au nom de Christ Jésus, étends ta main pour que maintenant ton messager proclame la vérité qui libère et qui permet au Saint-Esprit de révéler Jésus-Christ et que cet après-midi, personne dans ce lieu ne reparte pas sans la connaissance de Jésus le Sauveur. Donne ainsi gloire à ton nom en confirmant ta parole par des conversions, mais également par d'autres signes qui attestent que l'Évangile est la vérité. Père, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire en agissant ainsi pour l'honneur et la seule gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis, ce soir, nous croyons que Dieu veut vous faire la grâce, eh bien, de parvenir à la même conclusion que l'apôtre et après avoir expérimenté la puissance de l'Évangile. Comme le témoigne ce récit, ils sont Dieu que plusieurs siècles après, eh bien, des hommes et des femmes, partout dans le monde, continuent à expérimenter la même puissance. Et ce soir, Dieu voudrait que vous qui êtes là peut-être pour les premières fois, amis, vous qui n'avez pas encore expérimenté la puissance de l'Évangile, Dieu voudrait qu'au travers de ce témoignage qui a été conservé, vous puissiez comprendre que si Dieu a agi ainsi pour cet homme, et si c'est le même Dieu qui est annoncé ici, il peut faire la même chose pour vous, alors nous sommes convaincus que vous allez découvrir la puissance de l'Évangile. C'est pour cela, vous permettrez que je m'arrête sur ces deux endroits particuliers et sur deux paroles particulières. Car je crois que Dieu veut aider tout être humain à découvrir son amour manifesté à l'égard de l'humanité lorsque l'ange est venu annoncer que la naissance de Jésus-Christ était le sujet d'une bonne nouvelle pour tout le peuple. Mes amis, depuis, effectivement, le petit bébé dans la crèche ne restera pas là à mailloter. Vers l'âge de 30 ans environ, lorsque bien il vient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain et qu'il sort, eh bien, il reçoit le ciel qui s'ouvre et la puissance du Saint-Esprit qui descend sur lui. Oui, le petit bébé, Jésus de Nazareth, est maintenant celui que Dieu a oint pour manifester sa compassion, pour manifester sa puissance de guérison, de délivrance, de secours de l'être humain dans toutes ses détresses. Car lorsque Jésus sort de l'eau du Jourdain, on lui dit qu'il va être conduit dans le désert. Et là, après 40 jours de jeûne et de prière dans la présence du Père, eh bien, il va être confronté au tentateur, auquel il va résister avec une foi ferme par des paroles victorieuses. Et quand Jésus, à cet instant, entre dans la synagogue, eh bien, il dira, en lisant le rouleau du livre du prophète Ésaïe, ce passage de l'Écriture qui annonçait un jour la venue de celui sur lequel Dieu ferait reposer son esprit pour qu'il vienne annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer l'Évangile aux pauvres, Jésus-Christ dira, cette parole de l'Écriture aujourd'hui est accompli. À partir de cet instant-là, chers amis, eh bien, tous ceux qui ont vécu à cette époque sont venus auprès de Jésus. Tous ceux qui ont entendu parler de lui, eh bien, ont été tous convaincus que, effectivement, eh bien, Jésus, sa venue était le sujet d'une bonne nouvelle. Car il allait de lieu en lieu et il faisait du bien à tous. Il guérissait tous les malades. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et Dieu confirmait ses paroles par des prodiges et des miracles au point que sa génération étonnée, émerveillée dira, voici cet homme, il fait tout à merveille. Alléluia. Mes amis, oui, c'était le sujet d'une bonne nouvelle. Et ce soir, Dieu veut que vous puissiez comprendre que cette bonne nouvelle est véritablement celle qu'il vous faut à vous aussi dans votre situation, dans votre condition actuelle que vous connaissez et que Dieu connaît, car il me dit que dans ce premier endroit sur lequel Dieu veut attirer votre attention, il y a là ce lieu qui est appelé Bethesda, maison de la miséricorde. Or, dans ce lieu qui était un portique sous lequel s'agglutinaient les malheureux, les malades, les boiteux, les aveugles, les paralytiques, en un mot, les infirmes, les laissés pour compte de la société, ceux et celles qui sont sans secours, sans espoir, et qui viennent chercher dans ce lieu-là, eh bien, un probable, et j'allais dire, un hypothétique secours. Car c'est seulement de temps en temps que l'opportunité était donnée à l'un d'entre eux. Mes amis, ce lieu me fait donc penser à tous ces lieux encore de nos jours où les hommes et les femmes, jeunes gens et jeunes filles de notre société, de notre monde, eh bien vont inlassablement parce qu'ils pensent trouver là un réconfort, trouver là une solution. Mais année après année, restent toujours dans une profonde désespérance parce qu'ils ne voient jamais arriver le secours escompté. Comme me disait un jour, je me disais, mais attendez, vous êtes en chef d'emploi, vous avez été à l'ANPE, même si on ne s'appelle plus l'ANPE, il y a longtemps, ça s'appelle Pôle emploi. Donc il s'est bien informé, mais il dit, j'ai été tellement de fois que je n'y vais plus quand ça ne sert à rien. Mes amis, je pense à toutes ces personnes qui, dans leur pêche, ont été à des endroits qu'on leur a indiqués, on leur a donné des adresses, sont allés une fois, deux fois, plusieurs fois, mais n'ont jamais obtenu le secours escompté. Amis, je pense à tous ces lieux où on y va parce qu'on pense enfin pouvoir passer au moins un temps où on pourra oublier sa misère, sa souffrance. Et où, après des heures, quand on y sort, eh bien, on est plus malheureux que quand on y est entré. Ce soir, mes amis, je ne connais pas ces lieux que vous fréquentez. Je ne connais pas ces endroits où vous avez été. Mais vous n'avez pas trouvé ce que vous attendiez. Sans parler de toutes ces maisons de désespérance, comme il y en a en Hollande, et j'ai aperçu en Suisse, et que certains maires voulaient aussi ouvrir à Paris ces maisons pour que les jeunes gens, accros à la drogue, aillent se shooter. Mes amis, je dis, mais quel remède? Un remède pire que le mal. Ils sont accros à la drogue. On leur dit, mais écoutez, on va leur préparer un lieu au moins hygiénique pour qu'ils puissent se shooter en toute, oh mes amis, quelle folie. Et quand on regarde de près, on dit, mais voici mes amis, c'est parce que face à la détresse, quand on voit dans leur crise ceux qui sont en manque, quand on voit mes amis leur détresse, alors on peut penser, mais oui, finalement, pourquoi pas. Mais ce soir mes amis, la bonne nouvelle, c'est que la véritable solution n'est pas dans ces lieux-là. Car voici que 38 ans durant, cet homme y était. 38 ans durant, il n'a rien attendu. Et au bout de la 38e année, il n'attendait plus rien. Et ce lieu, pour lui, c'était le lieu de l'espoir quand il a été. Ce lieu où il a été se disant, peut-être, ce sera un jour l'opportunité pour moi. Il a compris que finalement, il ne fallait plus rien attendre.
Voilà pourquoi le jour où la bonne nouvelle vient jusqu'à lui, il est tellement dans le désespoir, il est tellement dans la souffrance, il est tellement dans la déception, que finalement, il ne sait même plus s'il veut ou pas. Vous savez, chers amis, quand on a été tellement déçu, déçu des lieux et déçu des êtres, déçu des autres, on finit par être déçu de soi-même. Car cet homme dit, c'est toujours pour les autres, jamais pour moi. Vous savez, des fois, à force de connaître les échecs, on finit par croire que c'est notre faute. C'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. On finit par croire que les autres y arrivent, mais nous, on n'y arrivera jamais. On finit donc par croire parce qu'on est Dieu. Autrefois, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La puissance de Dieu qu'est l'Évangile est capable de vous faire changer ta vie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est ici. C'est lui qui était monté à la rencontre de cet homme, connaissant sa détresse et sa situation. Mais il y a aussi des lieux où Jésus vient nous rencontrer pour nous montrer que même si on n'est pas dans la détresse, même si on n'est pas malade, on a besoin de le rencontrer. Ce lieu, c'est dans le temple. Vous savez, le temple, c'était la mosquée pour moi à l'époque, je vous l'ai déjà dit. Ce lieu, c'est peut-être la pagode pour quelqu'un d'autre. Ce lieu, c'est peut-être, je ne sais pas quel est le nom que vous mettez, mais c'est tous ces lieux religieux où l'être humain, dans sa quête de Dieu, dans sa recherche de la vérité, c'est tous ces lieux où l'être humain, que bien, n'est pas sur terre par hasard, mais qu'il est certainement le résultat de l'action d'un Dieu créateur, et qui sait qu'un jour, il comparaîtra devant lui. Mes amis, ce lieu, il me fait penser à tous ces endroits où les gens, en quête de sens, vont. Et de plus en plus, il y a un lieu à la mode. C'est tous ces lieux où on se rassemble pour méditer. Où les gens disent, eh bien, on entre en soi-même, on médite sur soi, et on essaie de se trouver, de trouver quelque chose en soi. C'est la preuve de la détresse de l'être humain, qui, eh bien, ayant rejeté Dieu, ne connaissant pas le Dieu véritable, se met à la recherche et à la quête de ce qu'ils appellent la spiritualité. Amen. Oh, tous ces lieux-là ne pourront pas combler le vide de votre cœur et votre attente de rencontre avec le seul qui puisse vous mettre en contact avec le Dieu vivant et vrai, le Tout-Puissant qui vous aime et qui a envoyé Jésus-Christ pour se révéler à nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Chers amis, c'est pourquoi l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour tous ceux qui ont le cœur vide et qui vont dans des lieux spécifiques. Méditation où on fait silence. Parce qu'on cherche. Mais également tous ces lieux où certains vont et acceptent tous les sacrifices pour s'y rendre. Parce qu'ils pensent que c'est là qu'ils vont trouver, eh bien, la réponse à leur questionnement concernant l'éternité. Je pense à tous ces lieux où des foules affluent tous les ans. Et avec des ravages, car tous les ans, plusieurs se font piétiner. Parce qu'ils sont à la quête du pardon de leurs péchés. Parce qu'ils savent que le Tout-Puissant est celui aux yeux duquel aucune créature n'est cachée. Tout est à lui à découvert au-dessus devant lequel nous allons comparaître un jour. Et alors, à la quête de la paix avec Dieu, eh bien, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices pour aller dans des ans de Dieu et tous les ans. Voyez-vous, chers amis, ce soir, si vous êtes quelqu'un qui a souvent été tourmenté par la question de votre âme, vous avez été souvent tourmenté par la question de l'éternité. Alors ce soir, Dieu vous dit, tous ces lieux-là ne peuvent pas être pour vous la véritable réponse. Mais c'est ici que Jésus-Christ va donner rendez-vous. C'est ici que je vous rencontre de voir. C'est lui la réponse. Amen. Voilà pourquoi nous aimons Jésus. Nous qui avons eu la révélation de sa et qui savons ce qu'il a fait pour nous. Oh, ce que nous avons cherché dans les religions, mais qui n'ont pas trouvé, Dieu nous l'a donné. Amen. Voyez-vous, chers amis, c'est pourquoi, eh bien, sachez-le, ce n'est pas par hasard. Parce que Jésus vous connaît. Vous ne le connaissez pas encore, mais lui vous connaît parfaitement bien. Vous savez, je me souviens de plusieurs témoignages de personnes qui, quand elles se sont trouvées dans des lieux comme celui-ci où l'évangile était annoncé, elles étaient convaincues que quelqu'un avait raconté leur vie au prédicateur. Tellement c'était précieux. Alors voyez-vous, chers amis, ce n'est pas que quelqu'un a raconté votre vie au prédicateur, mais c'est parce que Dieu était là pour vous révéler son amour, sa bonté, sa compassion parce que vous êtes. Que son nom soit béni. Amen. Ce soir donc, amis, comprenez que c'est cela l'évangile. L'amour de Dieu manifesté parmi les hommes au travers de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Or, voici, dit l'Écriture, que Jésus va donner deux paroles que lui seul pouvait donner efficacement. Parce que c'est dans sa bouche à lui seul que ces deux paroles sont la démonstration de la puissance de Dieu. Il déclare que quand Jésus vient vers cet homme, il est précisé, sachant qu'il est malade depuis longtemps. Voici la première parole. Jésus lui dit, peux-tu être guéri? Alléluia. Vous et moi, il ne nous viendrait jamais à l'esprit, à moins qu'on soit fou, d'aller voir dans un hôpital, d'aller voir un grabataire, d'aller voir quelqu'un qui est branché de partout avec toutes sortes de fils. Vous savez, ces choses qui font peur, là. Et surtout, moi, j'ai été traumatisé, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, non, on ne s'est pas vu encore. Eh bien, j'ai été traumatisé par un appareil qu'il branche et qu'il met quelque part sur le malade et qui fait du bruit. Ça, dès que je vais à l'hôpital, je ne peux pas faire ce bruit-là. C'est un service de monitoring. Là. Alors, qui d'entre nous serait fou? Quel médecin de ce monde, quel docteur, eh bien, quel professeur connaissez-vous qui aurait le culot de dire à une telle personne, eh bien, veux-tu être guéri? Si ce n'est pas consulté comme une injure, en tout cas, ce serait plus que de la désinvolture. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant qu'il est là depuis 38 ans, il dit, mais veux-tu être guéri? Parce que mes amis, celui qui dit cette parole, il sait qu'il a le pouvoir de défaire, d'accomplir ce qu'il dit. Peux-tu être guéri parce que j'ai le pouvoir de te guérir. Alléluia. Veux-tu être guéri parce qu'il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'est pas. Et la chose qui est à l'existence. L'évangile, mes amis, c'est cette bonne nouvelle qui est la puissance de Dieu. Car Jésus n'a pas donné une parole de réconfort. Il n'a pas donné une parole pour blesser. Il n'a pas donné une parole pour faire illusion. Mais il dit une parole qu'il a le pouvoir d'accomplir et qu'il va accomplir instantanément dans la vie de cet homme. Alléluia. Ce soit donc Dieu veut que tu comprennes que c'est cela l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Ça veut dire pour la délivrance. Ça veut dire pour la guérison. Ça veut dire pour la restauration de celui qui croit. Et je bénis Dieu. Parce que quand Jésus prononce cette parole, même si cet homme ne peut pas comprendre le sens et n'a même pas la foi ni la force de dire oui, qu'est-ce que vous en pensez, c'est une chose à dire. Mais vous savez, quand on a été laminé par la vie, quand on n'y croit plus, c'est difficile même de dire oui. Mais voyez-vous, encore une fois de plus, la puissance de l'évangile fait que Même l'homme n'est pas dans la bonne disposition, eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Même si cet homme n'est pas capable de dire oui, je le veux, comme un jour quelqu'un d'autre, eh bien, avait demandé à Jésus, Seigneur, si toi tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, oui, je le veux, sois pur, il le touche. Elle nous dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Eh bien, il dit, appelez-le quand il vient. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, Seigneur, ce que je veux, c'est que je suis aveugle. Ce que je veux, c'est que je recouvre la vue. Et un autre avait crié après lui, Seigneur, aie pitié de moi, car ma fille est tourmentée par les démons. Et il va tellement insister que je ne puisse pas lui dire, que Dieu soit fait selon ta foi. Voyez-vous, quand on voit cela, on dit, mais c'est formidable. La puissance de Dieu, elle est à la disposition de ceux et de celles qui ont la foi et qui sont capables de la saisir. Et mes amis, la puissance de Dieu, elle n'a pas de limite. C'est pourquoi même pour celui qui n'a pas de force pour dire oui, je le veux, il le fait quand même. Alors prends ton Dieu, marche. Alléluia. Et ce qu'il dit, s'accomplit. Quand vous croyez en l'évangile, chers amis, vous ne croyez pas dans des fables. Si je puis vous annoncer l'évangile, c'est que l'évangile est puissant de Dieu. Parce que pour sortir le musulman de l'islam, il faut une puissance plus grande que celle du diable, celle des ténèbres. C'est la puissance de l'évangile de Christ. C'est ça qui me rapproche. Moi, je vous dis, chers amis, ce soir, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a cette deuxième parole. Il déclare que lorsque Jésus a accordé la délivrance, la guérison à cet homme, dans sa joie, il sort, eh bien, brandissant son lit. Qui ne croit pas sa joie? Pendant 38 ans, il était allongé. Pendant 38 ans, sa peau collait à cette natte. Mais quand Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, quand il s'est levé, maintenant il peut ramasser sa natte. Alléluia. Plus jamais il sera l'homme allongé. Il sera l'homme debout à la puissance de la parole de Jésus. Et donc, dans sa joie, il sort. Attends, monsieur. T'es sabbat, t'es juif, t'es croyant, t'es religieux, t'es pratiquant. Bon, excusez-moi, ce que je disais, tu es. Tu n'as pas le droit de faire cela. Il dit, mais écoutez, c'est l'homme qui m'a guéri, qui m'a ordonné de prendre mon lit. Mais cet homme devait savoir que c'était un sabbat, non? Bon, enfin, parce que moi, vous savez, quand on a été coupé du jour de l'extérieur pendant plusieurs années, on peut perdre la notion du temps. Hein? On ne sait pas si on est le jour ou le matin. Encore moins, ça va quel jour de la semaine on est. On ne peut jamais arriver de demander, mais on est quel jour aujourd'hui? Bon, enfin, bref. Mais l'homme qui est venu du dehors, lui, il savait bien que c'était le jour de sabbat. Alors, ils disent, mais qui est donc cet homme qui t'a dit, un jour de sabbat, prends ton lit et marche? Qui est cet homme? Parce que les Juifs savent. Et chers amis, écoutez, cela est important pour vous. Les Juifs, croyants, pratiquants, savaient et savent encore aujourd'hui qu'il n'y a aucun homme qui puisse être au-dessus de la loi de Moïse. Donc, quel est l'homme qui ose se permettre de dire à un Juif de porter un fardeau le jour du sabbat? Ne connaissait pas qui est l'homme qui lui a dit cela. Si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ, parce que vous ne savez pas qui est cet homme. Quand vous regardez la croix, vous passez à côté. Quand vous voyez un crucifix, vous passez à côté, ça ne vous dit rien. Parce que vous ne savez pas qui est monté sur la croix. Quand vous aurez la révélation de qui est Jésus, vous saurez que c'est celui qui a tout pouvoir sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, amis, croyez en lui. Et cette deuxième parole se trouve dans la bouche de Jésus. Quand dans le temple, il rencontre cet homme, il dit une parole, mes amis, que les religieux peuvent se permettre de prononcer, mais que personne, en réalité, n'a le pouvoir de donner à l'homme de le vivre réellement. Jésus dit à cet homme, va et ne pêche plus. Alléluia. Seul Jésus a le pouvoir de vous affranchir de la domination et de la puissance du péché. Seul Jésus a eu le pouvoir de me délivrer de la puissance et du pouvoir du péché. Car mes amis, tous les hommes ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste parmi les hommes, parce qu'aucun homme n'est plus pauvre que le péché.
Va et ne pêche plus. Combien de fois des gens ont été dans ces endroits? Nous avons baptisé une dame dans ses 80 ans. Elle avait 80 ans, je pense. Passé d'ailleurs. Quand on l'a baptisé, le jour de son baptême, elle a dit, pasteur, non, je veux rendre témoignage. Et une mamie, attendez, non, vous n'êtes pas, non, pasteur, il faut que je dise à tous. Ah bon, d'accord, c'est dit. On a donné le micro à la mamie. Vous savez ce qu'elle nous a dit? Elle dit, voici, tous les dimanches, j'allais, et pour faire court, je disais à celui qui me confessait. Il disait, mon père, à part voler et tuer, tout le reste, je l'ai fait dans la semaine. Et tous les dimanches, elle retournait encore. Vous avez souri à ses dépens. Mais qui d'entre nous n'a pas dit, cette fois-ci la dernière fois, je ne recommencerai plus. Qui d'entre nous n'a pas dit, j'aimerais bien arrêter, mais je ne peux point arrêter. Car le péché, c'est une force qui vous tient et qui vous rend incapable de faire le bien que vous voulez faire, mais vous pousse à faire le mal que vous haïssez. Qui vous délivrera de ce corps de péché? Gloire soit donnée à un seul qui peut le faire, celui qui a dit, va, je ne pêche plus. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, il est bon que vous le connaissiez. Car cet homme aussitôt va aller dire aux Juifs, maintenant je connais l'homme qui m'a délivré, l'homme qui m'a dit de porter mon fardeau, de porter mon lit de misère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui seul a le pouvoir de nous dire qu'il a vaincu le péché pour nous, afin que ceux qui croient en son nom soient affranchis de l'esclavage du péché. Voici, si vous gardez mes paroles, parce que vous croyez en moi, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car celui que le Fils affranchit devient réellement libre. Alléluia. Amis, voilà pourquoi vous pouvez, vous aussi, cet après-midi, vous avez marre que maman vous dit toujours, t'as encore fait, t'es encore retourné, vous finissez maintenant, désormais, personne ne prendra plus la tête. Comme ce jeune homme qui disait, combien de fois j'ai changé de trottoir. Mais quand j'arrivais à la hauteur du bar, c'était plus fort que moi. Il y avait comme une attraction qui me poussait vers le comptoir. Il était lié par l'alcool. Mais par la foi dans le nom de Jésus, il était complètement libéré. Et quand Victor rend témoignage, il dit, je suis un homme tout neuf. Oh, je vais beaucoup de choses pour que plusieurs années après, je ne l'ai pas oublié. Je suis tout neuf. Béni soit Dieu. Il nous libère du joug du péché. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Ce soir donc, amis, nous croyons avec l'apôtre Paul que l'évangile est véritablement la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Et vous aussi, vous pouvez croire. Vous connaîtrez la vie. Parce que celui qui a dit cela, c'est celui qui est venu donner sa vie sur la croix pour nous. Il a pris un corps semblable au corps de péché dans lequel nous vivons. C'était afin de clouer le péché et sa malédiction à la croix. C'était pour triompher du péché et de son pouvoir. Il a été crucifié à Golgotha. Et quand il est resté le troisième matin, le Christ victorieux, vainqueur, dit à ses disciples, allez donc annoncer de bonnes nouvelles de la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, parce que voici,
été accompli désormais. Il a vaincu le péché. Il a payé le prix. Parce que voyez-vous, mes amis, le salaire du péché, c'est la mort. Il a vaincu la mort pour nous donner le pouvoir de la mort, le pouvoir du péché. Que ce soit à nous. Même si vous n'êtes pas malade, même si vous n'êtes pas désespéré, vous avez besoin pour l'éternité de votre âme de venir à Jésus-Christ le Sauveur pour recevoir le salut par grâce et être rendu juste aux yeux de Dieu. Nous en parlerons les prochaines fois, car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut qu'on vous croit. Et que ce soir, Dieu vous aide à croire que vous faites ce que vous aussi. Et donc, c'est le gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais me dire, mais monsieur, comment on peut faire cela? Jésus n'est plus ici, comment je peux le faire? Mais la Bible dit, voici, quand l'Évangile est prêché, Jésus se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Si quelqu'un entend et il ouvre son cœur, il a promis d'entrer dans la vie de cette personne, d'entrer chez vous, de souper avec vous et vous avec lui. C'est-à-dire, vous savez, si quelqu'un entend mes paroles, s'il les reçoit et les garde, mon Père l'aimera, moi et mon Père, nous devons que notre demeure en lui et chez lui. Amen. Ce soir donc, comment vous pouvez expérimenter l'Évangile? Seulement en fermant vos yeux, sans chercher à le voir, parce qu'il n'est pas ici physiquement, mais dans votre cœur, dit Seigneur, si c'est vrai ce que j'ai entendu de toi, Jésus, le seul qui puisse me donner l'espoir et l'espérance là où il n'y avait que désespérance et mort. Si tu es le seul qui peut me délivrer du pouvoir du péché qui me rend si malheureux et si malheureuse bien des fois, ce soir donc je veux venir en toi tel que je suis pour être secouru, délivré, sauvé. Oui, ce soir, je veux te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand vous direz Amen dans votre cœur, vous saurez que Jésus-Christ a entendu votre prière. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Que Dieu vous bénisse, que bon offrant devant lui.